Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, la règle du plus bas soumissionnaire doit-elle être abolie? Le Parti québécois répond oui pour le matériel sanitaire. Doit-elle être abolie dans tous les autres contrats comme la CAQ s'y était engagée? On en discute avec Mégane Perry-Mélançon du Parti québécois. Mais d'abord, l'opposition officielle estime que François Legault gouverne par décret. Au bout du fil, il y a la chef du Parti libéral, Dominique Anglade, pour discuter de sa critique de ce matin du gouvernement par décret. Bonjour, Dominique Anglade.
Bonjour.
Donc, ce matin, vous disiez qu'il y a eu 55 reconductions de l'état d'urgence depuis à peu près un an. Et ça, c'est inquiétant, ça sape les débats. Est-ce que l'Assemblée nationale devrait se pencher là-dessus ou même utiliser l'article 122 de la loi sur la santé publique pour empêcher la reconduction de l'état d'urgence?
Mais honnêtement, c'est pas normal. C'est anormal qu'on se retrouve dans notre système aujourd'hui avec la reconduction 55 fois de l'état d'urgence sanitaire. En fait, lorsqu'on regarde la loi, ça va à l'encontre de l'esprit de la loi d'urgence sanitaire. Quand on lit la loi, ce qu'elle nous dit, c'est que si le gouvernement veut adopter des mesures, un décret d'urgence sanitaire, il peut le faire et il peut le faire sur une période de 10 jours qui est renouvelable. Mais la loi stipule également qu'au bout de 30 jours, si c'est un renouvellement, puis on parle de 30 jours, on devrait retourner à l'Assemblée nationale pour pouvoir discuter des mesures qui sont amenées. Et donc, ça veut dire que, techniquement parlant, ça aurait dû faire déjà 12 fois que l'Assemblée nationale a été consultée sur les mesures sanitaires. Ça, c'est la première des choses. Mais il y a en plus un autre volet de cette loi-là qui montre qu'ils ont besoin de faire une reddition de compte, même si ça veut dire 10 jours, là, sur comment l'argent a été dépensé, quels sont les pouvoirs qui ont été octroyés. Alors, on n'a aucun accès à une véritable reddition de compte en date d'aujourd'hui. Et c'est ça qui est problématique.
Est-ce qu'il faudrait justement que l'article 122 soit utilisé? L'article 122, c'est l'Assemblée nationale peut désavouer par un vote la déclaration d'état d'urgence sanitaire. Ça s'est retrouvé beaucoup, je vais vous le dire, là, dans la littérature plutôt complotiste. On dit que l'Assemblée nationale ne fait pas son boulot, tout ça. Et certains pourraient dire, certaines mauvaises langues au gouvernement pourraient dire que vous tendez d'une certaine façon la main à des gens qui veulent saper la lutte à la COVID.
Bon, absolument. La lutte à la COVID, je pense que vous m'avez entendu dire sur toutes les tribunes et chaque fois que je prends la parole, à quel point on doit tous se serrer les coudes et respecter les règles sanitaires. Parce qu'il n'y a qu'une seule voie pour y arriver, c'est justement de les respecter pour passer à travers la crise. Donc, je pense que ce débat-là, on n'a pas besoin de le faire. Mm-hmm. Par contre, si vous parlez de l'article 122, je préférerais, et de loin, que le gouvernement accepte de rencontrer l'esprit de la loi puis de se dire, avant de renouveler l'état d'urgence sanitaire, je vais effectivement consulter l'Assemblée nationale. L'article 119, on a même dit aujourd'hui, nous, on est prêt à mettre un amendement, on va présenter une modification de l'article 119 qui demanderait tout simplement au gouvernement de consulter tous les partis, toutes les formations politiques représentées à l'Assemblée nationale et qu'on puisse avoir un débat avec les parlementaires. On pense que c'est sain dans notre démocratie. C'est pour ça qu'on a des contre-pouvoirs. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a eu, pour la CEPAC, un contrat de gré à gré qui a été donné pour la Gravelle. Est-ce qu'on peut me dire c'est quoi le rapport entre ce contrat-là et l'urgence sanitaire? Pourtant, ils sont capables de passer des contrats gré à gré parce qu'il existe.
Est-ce que c'est aussi clair que ça, Dominique Anglade, que le contrat pour le gravier à la CEPAC était vraiment lié à l'urgence sanitaire? Parce que j'ai posé des questions là-dessus dans l'entourage du ministre Dufour, puis c'était pas clair que c'était lié à l'urgence sanitaire.
Ah ben, ça a besoin d'être clair pour lui. Si c'est pas clair pour lui, imaginez pour nous.
OK.
Bon, le point là-dedans, c'est que nous, ce que l'on comprend, c'est que la raison pour laquelle il est capable de le faire, c'est parce que, justement, il y a un décret d'urgence sanitaire qui permet d'accorder des milliards de contrats depuis un an, des milliards de contrats. Et il y en a certainement qui sont totalement justifiés. Mais chaque fois qu'on a commencé à fouiller des questions, notamment par rapport au à ce que la santé publique nous dit, aux règles de la santé publique, aux avis publics, ça a tout pris pour qu'on ait les informations. Rappelez-vous qu'on a demandé à voir une seule fois le docteur Arruda et que c'est pendant ces 3 heures-là qu'on a appris finalement qu'il existait des avis publics alors qu'on ne savait même pas. Ça a pris 2 mois pour qu'on les obtienne par la suite, puis il y en avait 14 alors qu'il y en a plein qui doivent exister auxquels on n'a pas accès. Il y a un manque flagrant de transparence dans la manière de gérer du gouvernement et on a bien beau être en pandémie, ça fait plus qu'un an, ils ne respectent pas l'esprit de la loi par rapport à l'urgence sanitaire et même les spécialistes de ces questions-là vont vous le dire.
Oui, je sais, j'ai vu que Louis-Philippe Lampron, professeur de droit à l'Université Laval, disait cela. En même temps, moi, je reçois son collègue Patrick Taillon tous les lundis dans une chronique constitutionnelle. Puis, il me disait que le droit comparé montre que l'état d'urgence parlementaire, quand il est parlementaire, donc appuyé par le Parlement, il a tendance à prendre des formes permanentes. Plus souvent quand il est parlementaire que quand c'est l'exécutif, parce qu'il y a beaucoup de pression sinon sur l'exécutif. C'est peut-être un peu technique, mais je trouvais ça intéressant qu'il disait oui, mais c'est vrai que l'état d'urgence, quand il est parlementaire, il devient quasiment permanent. Il n'y a pas un risque, effectivement, que personne ne voulant sortir de l'état d'urgence, tout le monde disant que les problèmes sont graves, qu'on reste en état d'urgence plus longtemps?
Ben c'est exactement la question qu'on soulève aujourd'hui.
Non, mais s'il est parlementaire, c'est-à-dire s'il est appuyé par le Parlement, c'est ça que le droit comparé montre, selon Patrick Taillon.
Ben écoutez, moi je pense pas que c'est les parlementaires. Je pense qu'il y a personne qui aurait intérêt dans les groupes parlementaires à dire qu'on veut poursuivre éternellement l'état d'urgence, puisque ce que ça permet de faire, en fait, les discussions en amont avant de revenir à l'état d'urgence, c'est de s'assurer que on comprenne bien ce qui est renouvelé, on comprenne bien les mesures, qu'il y ait des discussions qui soient
faites. Je comprends ce que vous dites, mais écoutez les réponses. Si vous avez entendu les réponses, je veux dire, de Geneviève Guilbeault tout à l'heure, si vous voulez questionner l'état d'urgence puis en débattre, vous faites de la philosophie, vous n'êtes pas consciente de la gravité de la situation. C'est un peu la rhétorique qu'elle utilise, qui peut être une rhétorique condamnable.
Ouais, c'est une rhétorique, c'est une rhétorique.
Mais à un moment donné, c'est peut-être ça qui arriverait au Parlement, c'est que tout le monde dirait « Moi, je suis conscient de la gravité de la situation, il faut reconduire l'état d'urgence, non? »
Ben non, moi je suis pas sûre de ça. Puis la rhétorique de Mme Guilbeault tient pas du tout la route. Parce que je sais pas si les gens ont suivi l'ensemble de la période de questions. On s'est vite pour parler des enjeux de logement, de santé mentale, des enjeux de garderie, des gens qui vivent au quotidien, le fait que on est des la question de la grève avec les enseignants. Je pense qu'on est très connectés sur la réalité terrain, parce que justement, on parle avec nos concitoyens partout dans toutes les régions du Québec. On est très connectés. Ça ne veut pas dire, c'est pas parce que tu es connecté que tu sais ce qui se passe dans le détail, que tu sais qu'on vit une pandémie, qu'on n'est pas capable de soulever un certain nombre de questions par rapport à la manière dont les décisions sont prises. Ça n'a rien à voir.
J'ai le décret devant moi, Dominique Anglade. Qu'est-ce que vous aimeriez, dans ce décret-là, changer? J'ai le décret du 13 mars.
Le décret du 11 avril?
Puis j'ai le décret, le dernier, du 7 avril, là, si je ne m'abuse.
Ah, ben voyez, moi, j'ai celui du 11 avril.
Ah, 11, OK. Mais je pense que c'est le même avec juste des dates supplémentaires parce que c'est impressionnant.
Non, pas nécessairement.
De voir. Non?
Pas nécessairement, parce que justement, ça, c'est une autre des problématiques du décret. Moi, j'ai celui du 11 avril.
Oui.
Et dans celui du 11 avril, par exemple, vous allez voir que le décret est reconduit, mais avec des modifications à tel paragraphe. Il modifie la suspension de d'un élément pour les patinoires, le couvre-visage. Il modifie également des sous-paragraphes, encore une fois, pour le couvre-visage. Alors, il y a plusieurs éléments. Mais on peut rentrer, il y a baignade. En tout cas, il y a d'autres éléments qui sont ajoutés. D'où la complexité aussi, parce que vous voyez, vous prenez un décret, il est renouvelé avec des modifications, ce qui devient extrêmement difficile à suivre. Mm-hmm. D'où la nécessité d'avoir les discussions en amont de ça. Qu'est-ce que vous faites pour la baignade, les piscines, etc.? Ça aussi, ça fait partie du décret. Mm-hmm. Mais quand il a été renouvelé 55 fois, je veux dire, un champ perdrait ses petits, là, poursuivre le premier décret jusqu'au dernier. C'est un bon travail d'avocat. L'objectif ici, c'est pas de remettre en cause les mesures sanitaires. L'objectif ici, c'est de comprendre et de s'assurer qu'il y ait une reddition de comptes pour qu'on ne se retrouve pas. On est en face d'un gouvernement qui refuse une enquête publique indépendante. On est en face d'un gouvernement qui nous a donné 14 avis de la santé publique après nous avoir dit combien de fois que les avis publics n'existaient pas, écrits n'existaient pas. On est en face d'un gouvernement qui, par rapport à la ventilation, on a un ministre qui a menti à la population par rapport à la ventilation puis l'implication de la santé publique. On a un gouvernement qui, quand on pose des questions, se referme puis se dit « Ah, mais non, on est dans une crise pandémique, on a le droit de tout faire. » Ce n'est pas ça, être dans un système démocratique. Ce n'est pas ça.
Mm-hmm. Vous voudriez qu'il y ait comme un gouvernement d'unité nationale ou un gouvernement d'exception où, justement, il y aurait des représentants des oppositions?
Je veux un gouvernement qui réponde aux questions, qui réponde à la reddition de comptes. Je veux un gouvernement qui soit capable d'expliquer à la population pourquoi il prend telle décision et faire une reddition de comptes par la suite. On ne peut pas. On est en démocratie. Moi, vous ne souhaitez pas, vous, M. Robitaille, de savoir que on gouverne par décret, puis que de semaine en semaine, on renouvelle le décret d'urgence sanitaire, puis qu'on n'a pas le droit de poser des questions quand on demande une reddition de comptes. Ça, c'est la croix et la bannière pour obtenir de l'information, que vous n'aviez pas accès à vos avis de la santé publique de manière séparée, qu'il y a des points de presse qui soient faits avec la santé publique et le premier ministre, puis on ne sait pas quelles sont les décisions qui sont davantage politiques versus les décisions qui sont davantage scientifiques. Ça ne vous inquiète pas? Moi, je pense que ce sont des questions qui sont absolument légitimes.
Ben oui.
On a le droit de soulever.
Non, c'est certain que c'est légitime. Dans le décret, on dit que ça habilite le gouvernement de prendre l'une des mesures prévues au paragraphe 1 à 8 du premier alinéa de l'article 123. Quand on va voir l'article 123, c'est l'alinéa 1, c'est ordonner la vaccination obligatoire de toute la population. Seriez-vous d'accord avec une vaccination obligatoire?
On n'est pas allé là. On vit dans une société, de droit. Par contre, j'encourage tout le monde à aller se faire vacciner. Je pense que la vaccination historiquement a apporté un énorme résultat positif pour notre société. D'ailleurs, je pense que c'est cet énorme résultat qui fait en sorte que les gens déconsidère la vaccination parce qu'on ne se rend même plus compte de l'effet positif que ça a eu sur la santé de nos populations. Alors, aller à l'obligation, là, c'est aller loin.
Êtes-vous tanné de l'équipe B du mercredi? C'est pas le premier ministre qui répond à vos questions, c'est Mme Guilbeault. C'est peut-être méchant d'appeler ça ou narquois d'appeler ça l'équipe B, là, mais vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, premièrement, je les trouve inutilement agressif, là. Vraiment inutilement agressif. Quand ils n'ont pas de réponse, ils passent à l'attaque, ce qui n'est pas nécessaire parce que je pense qu'il y a une manière, de faire le débat qui peut être beaucoup plus constructive. Mais je pense que ce serait bien qu'on ait le premier ministre qui soit là à chaque période de questions pour répondre aux questions. Mais bon, on est dans la situation dans laquelle on se trouve. Ils ont choisi de faire les choses différemment. Mais nous, on est là chaque jour pour poser nos questions.
Très bien. Merci beaucoup, Dominique Anglade.
Merci beaucoup. Au plaisir.
Chef du Parti libéral.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
Le Parti québécois demande au gouvernement d'abolir la clause du plus bas soumissionnaire dans le processus d'attribution de plusieurs contrats. Pour en discuter, Mégane Perry-Mélançon, députée de Gaspé, est au bout du fil. Bonjour.
Bonjour.
Donc, pourquoi abolir cette clause qui est très importante, là, après tout, pour assurer une sorte d'intégrité des appels d'offres, non?
Bien, c'est certain qu'il faut s'assurer que les produits en territoire québécois soient quand même compétitifs et avantageux pour le gouvernement. On sait que on est dans l'octroi de contrats gouvernementaux. Nous, on adresse la question là davantage pour les équipements de protection individuelle parce que on se rappellera que le premier ministre avait lui-même lancé un cri du cœur, un appel à toutes les usines de production au Québec qui étaient en mesure de produire rapidement des masques, des visières, des blouses lavables pour tout le domaine médical. Et plusieurs ont réussi là rapidement à s'avérer sur un système puis produire tous ces équipements-là. Et aussi, il faut noter la qualité là de leur production et surtout sont soumis à des tests vraiment de qualité ultra performants au Québec. Et on n'a pas la même... on n'a pas les mêmes restrictions là sur le plan international. Alors, quand on octroie des contrats seulement avec la clause du plus bas soumissionnaire, ben souvent, on retrouve des entreprises québécoises qui sont perdantes, mais des fois, c'est pour quelques sous de différence et le gouvernement n'a pas de réelle vision économique pour favoriser l'octroi de contrats en sol québécois, alors qu'on sait que ça a des bienfaits pour les retombées économiques, pour la création d'emplois. On sécurise la chaîne de production au niveau local et ça a aussi des bienfaits au point de vue environnemental. Alors, il faut penser plus loin que ce qu'on sauve comme coût là sur un contrat, mais toutes les retombées que ça peut avoir de positif là pour le Québec.
Il y a des gens qui réclament l'abandon de la règle du plus bas soumissionnaire. Je pense à un communiqué que j'ai reçu tout à l'heure, MedTech Canada, qui réclame ça, puis qui dit dans son communiqué que c'était un engagement formel de la coalition Avenir Québec lors de la dernière campagne électorale. Donc, ben, ce que vous réclamez, c'est qu'ils respectent leurs promesses.
Exactement, qu'ils honorent leur engagement. Moi, j'ai déposé une motion aussi là plus récemment. Là, si on regarde dans la législature actuelle, le gouvernement avait appuyé une motion que j'ai présentée pour renforcer les efforts d'approvisionnement d'un point de vue local. Et on ne voit pas ça dans les contrats qui sont octroyés présentement parce que la machine, elle est extrêmement lourde administrativement. On a un nouveau centre d'acquisition gouvernementale qui n'a pas l'air justement de faire ses recherches et d'aller tenter de favoriser nos entreprises, nos PME québécoises. On y va toujours avec ce fameux critère du plus bas soumissionnaire. Et ben là, tout le monde se renvoie un peu la balle parce qu'il y a vraiment une volonté, là, le ministre de l'Économie me l'a souvent dit dans mes interventions, qu'il a cette même qu'il est favorable à implanter là un plus haut taux là d'achat local, mais on n'est pas capable d'avoir des garanties qu'on s'approvisionnera bel et bien au sein de ces entreprises-là. Alors, on a même des projets qui sont en suspens pour avoir, par exemple, les gants de nitrile qui seraient produits au Québec. On a des entrepreneurs qui sont intéressés par le territoire québécois, mais on n'est pas capable d'avoir, encore une fois, des garanties qu'on va s'approvisionner auprès d'eux. Alors, ça crée toute une confusion au sein de la chaîne de valeur et ça nous fragilise énormément. On sait qu'en temps de pandémie, dans des situations de crise comme on vit, c'est une question de sécurité nationale. Alors, est-ce qu'on peut en faire un peu plus pour leur venir en aide et leur assurer une production qui ne sera pas là, coupée, saccadée et des emplois seront toujours là un peu menacés par ça? Je pense qu'on peut leur devoir ça avec ce qu'ils ont fait pour nous là depuis le début de la crise.
En même temps, je vous écoute, puis ça a plein de sens, là, ce que vous dites, mais en même temps, est-ce que c'est pas un héritage de René Lévesque, le plus bas soumissionnaire? En octobre 2012, on célébrait ou on soulignait les 25 ans de la mort de René Lévesque, puis j'avais fait un papier, parce qu'on parlait beaucoup à ce moment-là d'intégrité des contrats, tout ça, puis j'avais découvert que c'est Lévesque, en arrivant au pouvoir avec le Parti libéral en 1960, qui avait instauré cette règle-là, il était ministre des Travaux publics, du plus bas soumissionnaire, justement pour éviter le favoritisme, tout ça. Donc, est-ce que... C'était Jacques Parizeau en entrevue qui m'avait rappelé ça. Puis c'est tout expliqué dans ses mémoires, là, attendez que je me rappelle, René Lévesque, même des libéraux à l'époque voulaient garder les vieilles mœurs de l'ère de l'octroi des contrats de l'ère de l'Union nationale, mais pour les libéraux. Et lui, il s'indignait de ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un risque de recul?
Non, c'est sûr, votre question était bonne, la première, là, à savoir où est-ce qu'on se retrouve. Nous, c'était vraiment plus niché là pour ce qui concerne l'approvisionnement en équipement de protection individuelle, en matériel médical. Là, c'est sûr que si on ouvre la porte à les contrats publics dans le domaine de la construction ou bref, un paquet d'autres domaines, où est-ce que là, il faut faire attention aux critères qu'on met en place là pour favoriser tel ou tel contenu. Je peux comprendre qu'il y a des nuances, puis là, on pourra peut-être pas aller dans le détail là, aujourd'hui, mais ce que je veux dire, c'est que on peut, tout en respectant les traités internationaux qui nous forcent à avoir quand même un contenu qui vient d'ailleurs pour préserver les liens internationaux et tout ça, on est quand même capable de favoriser nos entreprises québécoises, surtout dans un contexte où on est vraiment dépendant de ces de ces produits-là chez nous. C'est une question de crise, une question de sécurité. Donc, moi, je pense que oui, avec une et je vais déposer un projet de loi qui, notamment, là, inclut une politique d'achat québécois pour qu'on priorise un peu comme ça se fait ailleurs. On prend l'exemple des voisins aux États-Unis. Ils sont capables de se retourner rapidement vers leurs producteurs locaux pour certains produits nichés comme ça qui font appel à cette urgence sanitaire-là. Je pense qu'on est capable de le faire tout en respectant nos voisins internationaux puis les liens qui sont déjà là dans les accords là qu'on retrouve. Donc c'est une question de volonté.
Mais elle a été critiquée, la règle du plus bas soumissionnaire. Ça je le nie pas. Elle a été critiquée même devant la commission Charbonneau.
Mais on peut garder le critère. C'est pas nécessairement une abolition comme telle, mais plutôt d'avoir une grille qui ait une espèce de pondération avec des critères qui tiennent compte des avantages sociaux et environnementaux. Alors, la proximité des produits au Québec qui sont fabriqués ici, ça évite d'avoir des déplacements d'un continent à l'autre. Alors, c'est une question de réduction des gaz à effet de serre. Il y a plusieurs critères, notamment la qualité, l'emploi ici au Québec, qu'il faut aussi tenir compte dans l'attribution des contrats. Alors, je ne dis pas qu'il faut faire fi complètement du prix, mais le gouvernement, dont le ministre de l'Économie m'a dit, dans certains domaines, on serait prêt à payer 20, 30, 40 fois plus cher que sur les marchés étrangers, mais on ne le voit pas dans les actions du gouvernement. On est au stade des bonnes intentions encore aujourd'hui.
OK. On serait prêt pour avoir des produits locaux, comme vous dites. On serait prêt à payer plus cher. Mais est-ce qu'on serait prêt à payer plus cher aussi pour de la qualité? Parce que ce qui était dénoncé dans la règle du plus bas soumissionnaire, si je le rappelle, je pense à la commission Charbonneau, c'est que ou à la commission Johnson aussi, c'est que c'était pas... C'est la commission Johnson, je le rappelle, là, c'était sur le fameux viaduc de la Concorde, l'effondrement. Mm-hmm. C'est que pour avoir de la qualité aussi, on pourrait se débarrasser du plus bas soumissionnaire de cette règle-là, pour être sûr d'avoir de la qualité. Est-ce que ça serait...
Certainement, parce que là, en plus, on parle de la protection de la santé des Québécois ici. Là, il y a plusieurs commandes qu'on a reçues de masques, notamment là à fenêtre. Je me rappelle, on a priorisé une entreprise chinoise et là, ils sont arrivés non conformes. Toute la commande était finalement non conforme, il a fallu la mettre de côté et c'était des masques qui étaient destinés à tous nos centres de la petite enfance et il y a eu un retard majeur dans l'attribution des masques, la distribution, parce qu'on a préféré y aller au plus bas soumissionnaire et que malheureusement, ben ça amène des fois des mauvaises surprises aussi. Il y a eu plusieurs commandes qui sont arrivées contaminées, il a fallu payer des coûts additionnels pour décontaminer. Donc, c'est des frais qui sont pas tenus en considération dans l'octroi des contrats, mais c'est arrivé souvent qu'on a perdu des sous importants là dans des commandes qui sont venues de l'étranger. Alors, il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération.
Ça nous permettrait peut-être de nous affranchir d'une certaine dépendance à l'égard du manufacturier chinois?
Ben tout à fait. Je pense que là, cette crise-là aussi nous a permis de voir un peu dans certaines conditions là dans lesquelles travaillent ces gens-là dans certaines usines. Je veux pas pointer du doigt aucun pays comme tel, mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, on est sûr de la qualité des produits, on est sûr qu'ils ont été testés avant d'être mis sur le marché et que ce sont des gens avec une certaine expertise. Ce qui n'est pas toujours fait automatiquement quand on va s'approvisionner sur le marché international. Alors, voilà.
Dans un monde où il y a beaucoup de commerce numérique, est-ce que ça ne sera pas facile de contourner toutes ces règles-là pour les particuliers, même pour l'État, s'il y a urgence?
Bien, c'est un peu ça qu'on essaie de mettre au jeu, là. C'est tous des questionnements tout à fait légitimes. Est-ce que ce serait facile de contourner ça? Ben, je pense qu'il faut au moins tenter une meilleure application des autres critères, parce que le gouvernement l'a dit, on peut prioriser la qualité des produits au détriment du prix. Alors pourquoi on ne le fait pas plus systématiquement? C'est là que je tente d'avoir des réponses du gouvernement et que je suis encore sur ma faim. Ça fait déjà plusieurs semaines que je le questionne à ce sujet-là.
Vous êtes député de Gaspé. Parlons de la Gaspésie en terminant. Là, Air Canada a reçu de l'aide du gouvernement fédéral, mais il n'y avait pas suspendu ses vols sur la Gaspésie. Donc, qu'est-ce que ça dit, ça, pour les régions, cette entente-là? Est-ce que il y a des conditions là, pour envoyer des avions un peu partout dans les régions?
Oui, puis il faut rappeler là que notamment ma région là, quand Air Canada a décidé de suspendre ses vols au mois de juillet dernier, je vous dirais qu'il y a plusieurs intervenants, des acteurs du milieu qui étaient bien contents de voir Air Canada quitter la région, et on voulait s'assurer que s'ils décident de revenir et redonner des services, que ce ne soit pas à n'importe quel prix, parce que Air Canada a eu longtemps le monopole chez nous. On a vu ce que ça a donné, une hausse exorbitante des prix. C'est même plus cher que d'aller en Europe pour un aller-retour vers Montréal, vers Québec. Alors là, on a d'autres compagnies régionales qui essaient enfin de s'implanter chez nous. Alors nous, c'est sûr que dans l'entente entre Ottawa et Air Canada, on voulait s'assurer qu'il y ait ce maintien-là des partenariats avec les compagnies régionales. Alors je pense que là, c'est sûr qu'il va falloir que Québec aussi se mette de la partie.
Oui, voilà, il y avait un comité qui avait été créé par le ministre Bonnardel.
Tout à fait. Exactement. Donc, un comité d'intervention là qui a été formé d'urgence pour essayer de trouver les meilleures solutions possibles et d'offrir le meilleur service aux gens des régions. Là, ce qui ressort beaucoup, c'est dans les propositions qu'il y ait une espèce de pacte de non-concurrence que Air Canada, je pense même que le ministre Bonnardel l'avait suggéré ou essayé de l'instaurer auprès d'Air Canada. Donc, ça allait déjà dans ces orientations-là, c'est-à-dire que nous, ce qu'on veut en région, c'est qu'il y ait une concurrence saine, qu'il y ait plusieurs transporteurs qui décident de s'implanter. Et pour nous, c'est sûr que ça aura un effet positif sur le prix que les consommateurs vont payer pour aller dans les régions, pour aller dans les autres destinations. Alors nous, ce qu'on était content, c'est de voir que là, ben la compagnie Air Canada a quand même des responsabilités d'assurer un transit harmonieux là, avec les vols à l'international. Donc, si ça, on est capable d'avoir nos compagnies plus régionales qui desservent nos régions et que Air Canada soit quand même là pour appuyer tout ça, ben je pense que là, on a quelque chose qui ressemblerait aux besoins et aux réalités de la région.
Comment vous déplacez-vous, vous, entre Québec et Gaspé?
La majorité du temps en avion. Là, c'est sûr qu'avec la crise, il y a eu un changement dans les horaires, moins de vols, donc ça crée quand même une certaine logistique. Alors, des fois, c'est la voiture qui dépanne dans ces conditions-là, mais on est plusieurs élus, peut-être moins à l'Assemblée nationale, on est plus rares là, dans mon cas, mais aussi à Ottawa, je sais que plusieurs se déplacent en avion. Alors, il faut, et puis les gens de la région, c'est souvent aussi pour des raisons médicales, des raisons importantes. Alors,
ça doit être long en auto.
Quand c'est très long. En autobus aussi. Donc, Orléans aussi, on a eu une saga là, pour s'assurer qu'ils maintiennent leur service chez nous. Ce n'est pas encore tout à fait réglé, mais le gouvernement a quand même eu une attention là, dans son budget qui a été déposé. Alors, on espère que ça va assurer le maintien du service. Mais on est toujours en train de se battre pour nos transports en commun. Oui. Là, c'est une bataille de longue date, et même qu'il y aurait eu un recul important dans les dernières années, donc on essaie de rattraper ça.
Moi, ma proposition, c'est qu'on laisse faire le troisième lien puis qu'on construise un train pour la Gaspésie.
Je suis contente de l'entendre.
Un train pour la Gaspésie.
Je suis bien contente.
Hein?
Oui, bien un train, parce que là...
À 10 milliards, on serait capable.
Bien, certainement. Puis là, c'est ça, c'est que ça tarde, là, les projections pour le train, le retour du train sera en 2026, ça fait des années, même aussi sous gouvernement libéral, qu'on essaie de revoir notre train. C'est très long là, tous les travaux, les analyses qu'ils ont à faire au point de vue environnemental. Bon, c'est sûr qu'il y a besoin d'amour là, le rail, mais on pense que ça peut se faire de façon accélérée, puis ça aussi, ça fait partie de nos demandes.
Merci beaucoup, Mégane Perry-Melançon.
Ça me fait grand plaisir, merci.
Députée de Gaspé du Parti québécois, porte-parole du troisième groupe d'opposition en matière d'économie et de relance. Et c'est tout pour La Haut sur la colline en ce mercredi. Ben, merci d'avoir été des nôtres et n'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.